France Info. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Adorez ou détestez Pierre Berger, au moins ne laissez pas indifférent. Et nous tenions juste à saluer le départ d'une élégance, hein, puisque le mécène s'est éteint aujourd'hui à 86 ans, compagnon entre autres hein, d'Yves Saint-Laurent, et on salue sa mémoire en chemise Zara, bon on n'avait pas prévu aussi, donc désolé. Et ce soir, donc eux, ils ont l'élégance de l'actualité. Et les informés de France Info reçoivent Louis Holsetter, non, comment on dit, pardon,
Holsetter,
j'ai mal orthographié, Holsetter, excusez-moi, du journal Marianne, bonsoir. Sandra Rigol, bonsoir, vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, le communicant Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir. Et également Virginie Lepetit, bonsoir. De Courrier International. Et ce soir, nous reviendrons longuement sur les derniers développements de l'ouragan Irma, de la politique et de la visite de patrimoine par une députée, un peu d'Europe, mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Voici donc l'heure des premiers bilans. Après le passage de l'ouragan Irma sur les Antilles, on compte pour l'instant 9 morts et 112 blessés dans les îles françaises de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Les premiers secours arrivent sur place avec difficulté, vous l'avez entendu toute la journée sur France Info, et l'ouragan poursuit sa route hein, vers Cuba et la Floride. Alors que l'aide s'organise, que les dons affluent et que l'état de catastrophe naturelle a été décrété, les images du désastre provoqué par Irma comme celle d'Harvey, il y a quelques semaines au Texas, font écho à l'inquiétude autour de la situation environnementale, même si le lien entre succession d'ouragans et réchauffement climatique n'est pas prouvé. Certains n'hésitent pas à faire le rapprochement, comme Emmanuel Macron, quand d'autres évoquent la fatalité. Alors, le peu de témoignages que nous avons sont plutôt durs, comme cet habitant de Marigold, chef-lieu de Saint-Martin, posté sur les réseaux sociaux. On l'écoute.
On nous dit que tous les secours arrivent. Demain matin, à la première heure, on a un deuxième cyclone, catégorie 3, qui arrive à Saint-Martin. Il y a nos toits qui vont s'envoler, il y a des infiltrations d'eau, on n'a pas de bâche. On n'a pas de bâche, on n'a pas de pétrole pour mettre dans des groupes électrogènes. On a aucun matériel. On s'est fait piller pendant 4 jours. Il n'y avait personne pour protéger les boutiques. Mais dépêchez-vous l'armée, dépêchez-vous. Venez nous aider. C'est bien de faire tout ce cinéma, de passer avec des hélicoptères. Mais on n'a vu personne sur place. Aidez-nous.
Voilà, un habitant donc de Saint-Martin, donc les secours commencent à arriver et donc on va faire justement un point aussi sur la prochaine cible d'Irma, elle pointe sur Cuba, hein. Ce soir l'ouragan devrait se rapprocher de la Floride dans la nuit de samedi à dimanche et sur place nous retrouvons le correspondant de France Info aux États-Unis, Grégory Phillips, que nous allons avoir dans quelques minutes ou pas. Alors en attendant de l'avoir justement, alors nous allons parler un peu de cet ouragan et Sandra rigole, quand vous voyez qu'on parle beaucoup en ce moment de réchauffement climatique, de ces situations cycloniques. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, vous faites un lien justement entre réchauffement climatique et cyclone, alors qu'il est discuté en ce moment par les experts ?
Alors, c'est pas si simple que ça. En fait, les cyclones, pour faire court et rapide, ils tirent leur puissance du réchauffement des océans. Or, les océans, ils se réchauffent du fait de l'effet de serre. Et l'effet de serre lui-même est dû aux activités humaines polluantes. Donc, vous voyez, il y a une relation de cause à effet qui existe, mais qui n'est pas directe. Donc, dire que le changement climatique produit les cyclones, ce serait un petit peu faux. Il faut l'avouer. En revanche, dire que ce sont nos moyens de production et de consommation qui provoquent l'ampleur de ces cyclones et les catastrophes qu'on voit, ça, on peut l'affirmer.
Justement, quand on regarde ça, Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce qu'à votre avis, ce genre de situation, aujourd'hui, peut œuvrer pour une sensibilisation supplémentaire à la cause environnementale ou au contraire, certains pensent que c'est encore la fatalité, tout simplement la fatalité ?
Non, il y a une forme de, le plus terrible, c'est qu'il y a une forme de banalisation, c'est-à-dire qu'on voit très bien que Macron a incorporé, par exemple, dans son discours, l'écologie, en expliquant que la cause était quand même climatique, était notre responsabilité. Mais au fond, cette reconnaissance, elle existe, mais il n'y a pas forcément les actions derrière, il n'y a pas forcément le reste. C'est-à-dire qu'il y a une culture écologique dans laquelle on baigne, qui fait qu'on est tous bien conscients que quelque part, ça déconne et qu'on est quand même tous responsables. Oui. En revanche, de là à changer réellement nos comportements et de là à adopter des politiques publiques contraignantes, il y a un champ incroyable.
Mais Virginie Petit, est-ce que vous pensez aujourd'hui finalement qu'on est prêt à ça, à changer notre mode de vie, ou c'est justement ça le problème par rapport à cette réflexion écologique, trier nos déchets, d'accord, mais aller plus loin, ça paraît plus compliqué.
Moi, je pense que justement ces catastrophes climatiques qui ne sont pas plus nombreuses hein, qu'avant, mais en revanche leur intensité est bien bien plus importante, vont faire que ça va devenir plus concret. Parce que le problème pour le moment sur tout ce qui était climat et réchauffement climatique, c'est que on nous dit ça va se réchauffer 2 degrés. Pour vous, pour moi, en fait, 2 degrés, c'est pas palpable. C'est très très compliqué de voir, de sentir ce que c'est. Or, quand on voit ça, ça finit quand même par s'imprimer dans la conscience collective et d'une façon très concrète. Ce sont des conséquences, alors très complexes et effectivement c'est multifactoriel, mais ça fait partie des conséquences du réchauffement climatique et ça aide, c'est terrible, hein, mais à le rendre concret, je pense.
Louis Attal, on a vu en effet le président de la République en déplacement en Grèce, à Athènes, parler finalement, faire un lien, hein, lui direct, hein, entre réchauffement climatique, cyclone, de ce qui s'est passé sur les Antilles. Est-ce que c'est pas un peu risqué de faire de la politique sur ce genre d'événement ?
C'est risqué d'affirmer des choses qui sont pas démontrées, parce que effectivement, s'il y a une corrélation, il y a pas une causalité. Les catastrophes naturelles augmentent, surtout leur intensité augmente. Or, même au sein du GIEC, donc au groupe international d'experts pour le climat. Qui quand même fait référence chez les climatologues, il n'y a pas de consensus sur le fait que, effectivement, le réchauffement climatique accentue le nombre de catastrophes naturelles.
Non, mais
en revanche, il y a des conclusions qui expliquent que, effectivement, leur intensité, leur violence est liée au réchauffement climatique. Mmh. Et on voit la violence, on le voit sur les images, c'est tout à fait palpable à travers les témoignages, on voit la violence que ça suscite. Ce qui est quand même un peu triste, c'est qu'il faille Irma, il faille José, il faille des ouragans, la violence des images qu'on a, pour qu'on prenne conscience qu'en réalité, des phénomènes dont nous sommes à l'origine, ont un impact global. Mais il y en aura d'autres, des conséquences. Il y aura les réfugiés climatiques, il y aura des peuples qui se feront la guerre pour de l'eau parce que des mers s'assèchent. Il y aura tout type de conséquences qui n'est pas anticipé. Et le grand problème, c'est toujours le même, c'est que le temps écologique, c'est pas le temps politique. Mmh. Et que sur un quinquennat, vous pouvez faire des promesses écologiques, mais quand on parle de climat, c'est à 40 ans, c'est à 100 ans, c'est à des siècles. Donc on est face quand même à une impasse là-dessus, parce qu'on va pas, voilà, on n'élit pas des dirigeants pour 100 ans. Or, il faudrait prendre des décisions à 100 ans dans un monde idéal.
On continue à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
EDF rétablit l'électricité d'urgence à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, c'est-à-dire que les techniciens ont remis le courant dans les hôpitaux des deux îles, mais également l'aéroport de Saint-Barthélemy. Maintenant, deux avions avec 140 tonnes de matériel, dont une cinquantaine de groupes électrogènes, arriveront après-demain aux Antilles françaises. Les premières rafales d'Irma soufflent désormais sur Cuba. Il est considéré comme le plus fort séisme au Mexique. En un siècle, le tremblement de terre de magnitude 8,2 a fait au moins 32 morts selon un dernier bilan. C'était la nuit dernière. Le pays s'attend maintenant à devoir affronter l'ouragan Katia. Cet homme voulait commettre un attentat contre des forces de l'ordre. Ce jeune de 26 ans est mis en examen. Il a été interpellé lundi soir. Un suspect connu des services de renseignement pour son appartenance à la mouvance islamiste radicale. Pierre Berger sera incinéré mardi dans la plus stricte intimité. Sa fondation souligne qu'un événement public en son honneur sera organisé ultérieurement. Pierre Berger, homme d'affaires, mécène et compagnon d'Yves Saint-Laurent, est mort aujourd'hui. Il était âgé de 86 ans. Il était aussi le président du SIDAction. Et puis Mbappé est titulaire ce soir pour sa première avec le Paris Saint-Germain dans une demi-heure face à Metz. Mbappé, Neymar, autant dire que le club parisien sort la grosse artillerie. En ce moment, Bordeaux est sur la pelouse de Lille. C'est la cinquième journée de Ligue 1.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de l'ouragan Irma et forcément des conséquences que ça peut avoir, bien sûr, sur les habitants sur place, mais aussi finalement sur l'avenir. Est-ce que finalement ça nous fait réfléchir davantage sur les conséquences climatiques? Alors Sandra Rigaud, vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, et je voyais ne pas être tellement d'accord avec ce que Louis Althusser, c'est-à-dire sur le fait que l'écologie est un temps long et qu'on souhaite des résultats tout de suite.
Alors l'écologie est un temps long, mais il y a quand même des solutions qu'on peut adopter sur le temps court et qui peuvent se traduire assez rapidement. Et puis il y a aussi des signaux qu'on n'est pas obligé de donner ou une hypocrisie qu'on n'est pas obligé de développer. Par exemple, là, on parle beaucoup des conséquences climatiques de ces ouragans et on oublie que à peu près dans le même laps de temps, Emmanuel Macron était en train de négocier de nouveaux contrats pour les l'industrie des hydrocarbures, notamment Total et compagnie. On ne peut pas, d'une main, contribuer à financer les entreprises qui polluent la planète et de l'autre, dire avec la bouche en cœur que tout ceci est dû au changement climatique. Il y a des actes qui sont faciles à prendre. Ils ne s'imitent pas uniquement au territoire français et ne s'imitent pas uniquement à de la communication.
Oui, en effet, parce qu'Emmanuel Macron était à Athènes avec donc, le PDG de Total, en effet. Donc c'est ça qui paraît étonnant, Virginie Petit.
Il y a aussi une autre dimension, c'est que fatalement et malheureusement, pour le moment, on va subir tout ce qui nous a précédé hein, dans l'Holocène. Et donc, on va, même si on adopte des actions maintenant, on va subir ces phénomènes climatiques, quoi qu'il arrive. Et là, pour le moment, on n'est pas préparé. C'est-à-dire que les villes ne sont pas conçues pour ça, alors que plus de la moitié des villes dans le monde sont sur un littoral. Elles ne sont pas conçues pour ça. On n'est pas préparé, on n'a pas formé la population, et ça va se multiplier. Donc, il y a ces deux fronts à mener, c'est-à-dire prévenir et donc lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi s'y adapter.
Donc de la pédagogie, vraiment, en fait, c'est ça.
C'est pas de la pédagogie, il va falloir revoir tous les plans d'urbanisme, etc. Houston, par exemple, qui est quand même construite sur des marécages, c'est un bloc de béton, donc c'est imperméable. C'est pour ça que l'eau reste.
Harvey, avec l'ouragan Harvey, oui, finalement, a dévasté la ville.
Oui. Et c'est pour ça aussi que Bombay a été submergé. Donc il va falloir s'adapter.
Sandra Rigol.
Ce qui est symptomatique aussi, c'est que en général, les populations les plus touchées dans toutes ces catastrophes, ce sont les populations les plus précaires et les plus pauvres. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque catastrophe écologique, c'est aussi une catastrophe sociale. On paye au centuple ce qu'on fait subir à l'environnement et à la Terre. Et on le paye au sens propre, mais on le paye également au figuré. Mais au sens propre, c'est un coût colossal pour la société.
Alors Philippe Morochevreuil, justement, vous en tant que communicant, donc ça va peut-être vous faire du travail aussi, justement, cet exercice de pédagogie, on le voit, mais même dans notre quotidien, que ça soit à Paris ou à Grenoble, donc des villes très polluées, ces histoires, alors ça n'a pas d'incidence sur les ouragans, mais de circulation alternée, on se souvient de la guerre entre Ségolène Royal et Anne Hidalgo, une voulait une écologie, comme elle disait, contraignante, c'était Anne Hidalgo. Et au contraire, Ségolène Royal disait non, il ne faut pas d'écologie contraignante. On voit qu'il y a déjà deux visions qui s'opposent même sur un sujet comme celui-là.
On voit, Paris, c'est un très bon exemple. C'est un laboratoire d'une politique urbaine qui est ultra volontariste en matière environnementale, au point d'être traité de dogmatique. Mais c'est pas très dur d'être traité de dogmatique dès qu'on fait de l'environnement. Mmh. Bon, Anne Hidalgo est attaquée parce qu'elle, au fond, elle applique son programme, et on a envie de dire à la lettre. Et elle, c'est vrai qu'on ne peut pas, du coup, circuler objectivement. C'est très compliqué de circuler entre Châtelet, on va dire, pour les Parisiens et Étoile. Très compliqué pour les véhicules d'urgence même de passer. Il y a énormément de problèmes de pollution sur la durée de la mise en place de ce dispositif aux endroits où ça bloque, c'est-à-dire à Châtelet, en l'occurrence. Mais on sait que sur le long terme, sur la durée, son plan, c'est limiter la voiture, limiter la pollution à Paris. Ça passe par des étapes pénibles, mais au fond, il y a... Voilà. Et on n'est pas prêt à accepter ça. Il y a une levée de bouclier monstrueuse des Parisiens et elle peut perdre l'élection à cause de ça. Donc c'est très paradoxal.
C'est paradoxal, en effet. On veut en même temps, je veux dire, se protéger par rapport à
l'environnement. On est d'accord sur le papier. Mais... On est tous d'accord pour être écolo sur le papier.
Oui,
mais si j'ai pas ma voiture pour aller à Étoile, ça va pas aller.
C'est vrai.
C'est pas tous les Parisiens qui ont les moyens d'avoir une voiture. C'est un
non,
coût colossal d'avoir
une voiture. Mais j'ai besoin parfois de prendre un taxi pour moment d'urgence à mon bureau qui se trouve à Étoile. Voilà. Et j'habite de l'autre côté de Paris et ça pourrit mon quotidien. Mais en même temps, je comprends ce qu'elle veut faire.
Allez, en tout cas, voilà, c'est politique. En effet, urbaines sont discutées, mais là, on va aller très concrètement voir ce qu'il se passe justement de l'autre côté de l'Atlantique. On le disait en début d'émission, donc Irma est en train de s'abattre sur la côte nord de Cuba et devrait s'approcher dans la nuit de samedi à dimanche, donc de Floride. Et on retrouve justement à Miami l'envoyé permanent aux États-Unis, Grégory Fils. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous.
Alors on a vu toute la journée des photos, des images de Miami vidées. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une ambiance aujourd'hui presque fantomatique dans la ville? Est-ce que certains quartiers sont vidés d'habitants, Grégory?
Ah oui, vous avez totalement raison. Downtown, on croise plus personne à part des SDF, des homeless et des policiers qui patrouillent. Quelques journalistes qui viennent couvrir l'arrivée d'Irma et il n'y a plus personne. La plupart des habitants de cette ville de 5 millions d'habitants, hein, pour si on compte toute l'agglomération, sont partis soit vers le nord, soit vers l'ouest, parce qu'ils ont obéi aux ordres d'évacuation délivrés par les autorités. Alors, les ordres d'évacuation ne sont pas contraignants, c'est-à-dire que vous avez le choix. Et là, par exemple, je me trouve dans les Keys, vous savez, oui. Cet archipel d'îles qui se trouve tout au sud de Miami. Et dans les Keys, des gens restent alors que c'est la partie la plus exposée à l'ouragan. En gros, on nous a dit dans le village de Tavernier, par exemple, un quart de la population est restée. Pourquoi ? Parce que les gens disent être habitués aux ouragans. Ils ont connu Matthew l'an dernier, ils en ont connu d'autres au fil des années. Et leurs maisons, pour certains, sont consolidées. Des chambres sont transformées en bunkers. On a mis des plaques de tôle sur les fenêtres. Et donc, certains habitants de Floride décident de rester, même si effectivement l'ouragan s'annonce particulièrement puissant. dans la nuit de samedi à dimanche, sans doute.
Donc on a conscience, parce que c'est vrai que les mots donnés par le gouverneur de Floride ou par certains médias sont des mots comme cauchemardesque, désastreux. On sent vraiment une violence. Déjà, on sent des médias et même des politiques qui préparent la population à un choc. Hein.
Ah oui, le gouverneur de Floride, Rick Scott, a même parlé d'ouragan nucléaire. C'est sûr que ça marque les esprits. Les autorités, notamment après ce qui s'est passé à Houston, au Texas, veulent être extrêmement prudentes et montrer qu'elles sont sur le pont. Donc, déclaration évidemment des autorités locales, mais aussi de la Maison-Blanche qui suit la situation minute par minute. L'idée, c'est évidemment de prévenir au maximum les gens et de les convaincre de partir pour éviter des victimes. Souvent, le message est entendu et puis certains décident de ne pas obéir à ces injonctions.
Merci beaucoup, Grégory Philips. On vous retrouvera au cours de l'émission correspondant de France Info aux États-Unis. Louis Osater, on le voit, il y a quand même aussi une histoire de politique. On le voit, là, on l'a entendu aux États-Unis avec Donald Trump, qui en même temps va au chevet, on l'a vu à Harvey, à Houston, alors qu'il s'est retiré de l'accord de la COP21. De l'autre côté, on en parlait tout à l'heure, Emmanuel Macron aussi, qui en profite pour faire de la politique et qui va réunir deux ans après la COP21, un nouveau sommet. Finalement, tout ça prend des allures très politiques. On a l'impression que c'est vraiment une cause aujourd'hui politique.
Bien sûr, mais deux choses. Déjà, c'est significatif de voir une superpuissance comme les États-Unis impuissante face à des phénomènes climatiques comme cela. Donc on voit que quand la nature se venge quelque part, le mot est fort, mais quand la nature se venge quelque part, rien ne peut lui résister, pas même les États-Unis, pas même Donald Trump. Et on peut espérer pour que voilà, ça fasse bouger quelque chose peut-être dans la tête de Donald Trump. Ça, évidemment, on ne va pas conjecturer là-dessus. La deuxième chose, c'est sur le discours d'Emmanuel Macron. Pendant sa campagne, il est quand même resté assez discret tout sur fait, l'écologie, oui. Je trouve. Et en réalité, il est coincé. Là, il essaye de prendre, au niveau de la communication, la tête d'un groupe de leaders qui se poserait face à Donald Trump pour préserver l'accord climat, pour se poser en champion des écolos. Voilà, make our planet great again, etc. Bien Donc, sûr. Il fait des discours en anglais. Il fait de la communication, y compris à l'international. Le problème, c'est qu'à mon avis, il y a quand même une contradiction imminente entre un discours écologique et une politique pro-business, au sens où une politique qui ferait le jeu des grands groupes. Et dernière hypocrisie, c'est celle de grandes firmes internationales qui s'associent à un accord comme l'accord climat. Là, on est vraiment, on est au cœur du problème. C'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise en plein dans la financiarisation qui doit rétribuer ses actionnaires à court terme avec des dividendes, vous ne pensez pas le long terme, vous ne pensez pas aux enjeux écologiques. Donc vous êtes dans une contradiction imminente et c'est aussi celle d'Emmanuel Macron aujourd'hui.
Rapidement, Philippe Chevrolet, on l'a vu cet été, en effet, Emmanuel Macron vraiment aller sur tous les fronts, même avant, en effet, face à Donald Trump, sur le côté climat. Ça marche encore, ça, comme ficelle, là ?
Ça marche, oui, parce que la population a quand même le sentiment qu'il se passe quelque chose de grave quand on voit les catastrophes qui se produisent. Donc, il doit être là, mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe parce que il n'est pas écolo au fond. Mais je dirais, il y a un flou sur sa politique qui n'est pas limité à l'écologie. Donc, il y a un moment où les choix politiques vont marquer son quinquennat. On verra ce qu'il fait concrètement.
Alors, justement, on va parler de politique. Dans un instant, l'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Deux cambrioleurs présumés interpellés après le passage d'Irma à Saint-Martin. Les suspects ont été pris en flagrant délit de vol de matériel après l'ouragan dévastateur. Les gendarmes multiplient les surveillances pour assurer la sécurité des sinistrés. Depuis la Colombie, le pape François annonce qu'il prie pour les victimes de l'ouragan Irma et du séisme au Mexique. Le Mexique, où le dernier bilan est de 32 morts après ce tremblement de terre la nuit dernière, 8,2 sur l'échelle de Richter, 32 morts et le pays s'apprête également à affronter ce soir l'ouragan Katia qui devrait frapper l'état de Veracruz. PSA va déposer plainte pour violation du secret de l'instruction après les révélations du Monde. Peugeot Citroën aurait vendu près de 2 millions de moteurs truqués dans le but de passer avec succès les tests anti-pollution entre 2009 et 2015. Un rapport de la répression des fraudes accuse le constructeur automobile. Jawad Ben Daoud, renvoyé en correctionnel, ce logeur des djihadistes du 13 novembre avait été interpellé à Saint-Denis quelques jours plus tard, en 2015. Il devra répondre avec un autre prévenu de recel de terroristes. Et puis Pablo Carreño Busta face à Kevin Anderson. C'est le match d'ouverture des demi-finales de l'US Open de tennis à partir de 22h. Place ensuite à Rafael Nadal opposé à Juan Martín Del Potro.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Louis Osalter, de Marianne Sandra Rigol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, également le communicant Philippe Moreau-Chevrolet et Virginie Le Petit de Courrier International. Incroyable tout de même l'influence du film Un jour sans fin sur l'actualité sociale et politique. Hein. Vous savez, ce long métrage dans lequel Bill Murray est condamné à revivre perpétuellement le même jour, celui de la marmotte. Eh bien, en ce moment, avec le gouvernement, c'est le jour de la marmotte en permanence. Pour la rentrée, on s'était fixé tranquillement, tranquillou, sur les ordonnances de la réforme du Code du travail. Et voilà qu'en plus, on a la grogne autour des APL, des contrats aidés, de la future réforme du statut des agents de la SNCF. Se profile aussi la formation professionnelle et les retraites. Donc c'est une rentrée permanente. C'est un peu dur pour la marmotte. Le président de la République en déplacement en Grèce a dit qu'il ne céderait rien. Je cite, il ne cédera rien aux fainéants, aux cyniques, ni aux extrêmes. Avant d'en remettre encore une couche, vous allez l'entendre, il y a quelques cigales et un peu d'écho. C'est normal, c'est la Grèce, Emmanuel Macron.
La France n'est pas un pays qui se réforme. Notre pays ne se réforme pas. Parce que nos concitoyens, parce que vous, aussi longtemps qu'il est possible de ne pas faire les réformes indiquées par les livres ou les procédures, on se cabre, on résiste.
Alors Emmanuel Macron, donc, cet après-midi en Grèce. Philippe Moreau-Chevrolet, là, il remet une pièce dans la machine avec ses déclarations. Justement, les Français n'aiment pas les réformes. Et en plus, ceux qui sont contre lui seraient des feignants, des cyniques, des extrémistes.
Alors, toute la défense de Macron, quand il est attaqué sur c'est le fait de dire « Moi, j'applique mon programme ». Donc, il y a quand même une logique et une cohérence qui est de dire « J'avais prévenu que je ferais ça ». Donc maintenant, si vous voulez résister, c'est l'ancien monde qui résiste. Moi, je suis le nouveau monde politique. J'ai balayé toute la sphère politique existante, et ça, c'est vrai. Donc je vais vous montrer ce que c'est que, finalement, le macronisme.
D'accord, c'est ça. Ça rigole, vous, justement, vous qui serez dans la rue le 12 septembre prochain. Donc, vous êtes cynique, extrémiste, feignante?
Alors, je trouve... non. Mais en fait, les vrais fainéants en France, c'est quand même les gens pour lesquels Macron fait sa politique, c'est-à-dire les gens qui sont actionnaires, les gens qui dirigent des grandes entreprises, les gens qui, souvent, ne travaillent pas, mais bénéficient du travail des autres. Et ceux-là, effectivement, ce sont les plus grands fainéants. Ce sont d'ailleurs ceux qui coûtent le plus cher à la France. Et ce qui est très amusant, pour être cynique, oui, pour le coup, c'est que non seulement il coûte très cher à la France en emploi, il coûte très cher au niveau économique, mais il coûte très cher aussi au niveau écologique. Donc on a les mêmes personnes qui produisent les mêmes effets néfastes et qu'on continue à engraisser. Même si c'est pas le bon terme. Par ailleurs, c'est le jour de la marmotte, mais c'est le jour de la marmotte multipliée. C'est-à-dire que quand même la politique de Macron aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup de différence avec celle de Hollande hier. Puis, en fait, Hollande, il n'avait pas tant de différence que ça avec celle des précédents présidents. Donc, quelque part, c'est juste la continuité de la casse sociale, la continuité du je m'en foutisme écologique, la continuité surtout, et une continuité qui détruit la cohésion sociale du pays, qui ne produit pas d'emploi et qui continue à donner des discours de poudre de perlimpinpin, pour reprendre les expressions qu'aime bien le président.
Dans la République. Virginie Petit, pour vous, alors le gouvernement, maintenant, ne parle plus de réforme, mais il emploie le mot de transformation. Pourquoi est-ce qu'il insiste comme ça, Emmanuel Macron, sur le fait que les Français n'aiment pas le changement, c'est-à-dire que pour insister, pour dire que lui, il va réussir?
Parce que c'est vrai, quand même. quand même, faut le reconnaître. Ces réformes qu'il essaie de faire passer, effectivement, elles n'ont absolument rien de nouveau. Elles ont été tentées ou esquissées par des gouvernements précédents qui ne sont pas allés jusqu'au bout, et lui entend bien aller jusqu'au bout. Alors, ils fanfaronnent un peu, hein, et effectivement, ils tentent de dire que ce ne sont pas des réformes, qu'il va plus loin, voilà, il y a une espèce de fermeté dans son discours, et il agit un peu comme un père fouettard. Bon, il y en a d'autres qui ont essayé avant lui, ça me rappelle quand même beaucoup Juppé en 95. On verra ce que ça donne.
Finalement, c'est formidable. Il est à la fois François Hollande et Alain Juppé.
Et sur la méthode, sur le côté ferme et un peu méprisant. Il y a quand même une arrogance assez forte. Hein.
Louis Alters, finalement, cet empilement de réformes, là, il y en a beaucoup, hein, quand même, à venir. Est-ce que ça n'a pas l'obligé à se mettre davantage en avant? Parce qu'on a appris peut-être ce soir, alors c'est pas confirmé encore, il doit aller à Toulouse normalement lundi pour parler logement, mais il en profiterait pour parler des APL, justement. Donc il se met une nouvelle fois en avant. On se rend compte que une personne qui nous avait dit pendant la campagne « je ne commenterai pas chaque fait d'actualité », en fait, commente.
Bien sûr, il avait déjà fait une sortie quand il était en déplacement en Autriche, après avoir promis qu'il ne parlerait pas de politique intérieure dans le cadre de ses déplacements internationaux. Donc en fait, il y a une panique cet été, il y a eu un mouvement de panique au niveau de la communication présidentielle. Il nous avait promis d'être Jupiter, de raréfier sa parole. Finalement, on voit qu'il fait une très longue interview au point, pour pas dire grand-chose en réalité, parce que la grande partie de cette interview, c'est quand même une dissertation de philosophie politique plus que du véritable concret. Et pour le reste, il est obligé de se mettre en avant, à mon sens, parce qu'il n'a pas des porte-flingues efficaces. Donc il s'est aperçu que dans sa majorité, qui est quand même pour beaucoup constituée de novices, hein, on parle des députés de La République En Marche, il n'avait pas des porte-flingues qui pouvaient le défendre efficacement. Et donc il s'est dit, et même le Premier ministre Édouard Philippe, qui a raté sa première interview de
rentrée avec Jean-Jacques Bourdin,
chez Jean-Jacques Bourdin, et qui est très critiqué dans la majorité pour avoir raté sa rentrée, rentrer, ne tient pas la route et n'arrive pas à le protéger là-dessus. Donc il se met lui-même dans l'arène, mais du coup il est en contradiction avec la hauteur qu'il voulait redonner à la fonction présidentielle. C'est ce qu'il avait promis pendant sa campagne, et c'est ce qu'il avait réussi, à mon sens, à mettre en œuvre au début de son quinquennat.
Philippe Moreau-Chevrolet.
Parce que c'est intenable, on peut pas.
C'est pas possible d'être finalement ce fameux président normal dont parlait François Hollande.
On peut pas être de Gaulle en 2017. Ça fonctionne pas. D'abord parce que de Gaulle, il avait quand même libéré la France, donc il y avait une verticalité assez naturelle. Et ensuite parce que ça fonctionne pas. On est dans un système qui va très vite, où il faut être capable de répondre à Bourdin avec efficacité. Il faut être une bête médiatique, il faut être dans la performance médiatique en permanence. Ce n'est pas compatible. Et il est en train de le découvrir avec la réserve et la hauteur souveraine, peut-être un peu méprisante, en tout cas très maladroite, qui l'affecte parfois. Donc il va falloir qu'il descende effectivement d'un cran, qu'il s'entoure de snipers, ce qu'il a commencé à faire, parce qu'il y a des jeunes qui ont été recrutés, comme Aurore Berger, des jeunes porte-parole.
Oui, il y a Bruno Roger Petit, je sais pas si ça va faire la différence.
En tout cas, il a pris conscience de ça. Il a fait venir Bruno Roger Petit, effectivement, qui lui est un polémiste, on va dire, c'est son métier. Donc bon, on va voir ce que ça donne.
Alors on va continuer à en parler dans un instant. On parlera également de cette rentrée sociale, on en parle, et on parlera également du Front National dans un instant, et puis de cette élue d'Europe Écologie Les Verts qui aime bien les journées du patrimoine, mais avant l'heure. C'est très bizarre ce qui se passe. Les informés de France Info reviennent dans quelques minutes.
Je crois que c'est de la République en Marche.
La République en Marche, pardon.
Votre succès est notre succès. Vous créez, nous imprimons. Vos imprimés personnalisés, faciles à commander chez Online Printers. Avec Online Printers, le temps n'est plus une contrainte. La seule limite est votre créativité. Online Printers, l'expertise d'un imprimeur traditionnel alliée à la réactivité des solutions web to print. Du petit au grand format, votre partenaire pour tous vos besoins d'impression. Déjà 600 000 professionnels nous font confiance, pourquoi pas vous? Connectez-vous sur onlineprinters.fr/info.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
La perturbation progresse vers le sud et l'est. Demain matin, on la retrouvera entre l'Aquitaine, l'Occitanie, Rhône-Alpes, la Franche-Comté, l'Alsace et la Lorraine, avec des pluies continues, parfois soutenues. L'après-midi, elle aura gagné les Alpes et la région PACA, avec des pluies marquées, parfois orageuses. Un orage sera d'ailleurs possible dès le matin vers la Provence. Il restera un peu de pluie du Languedoc-Roussillon vers la vallée du Rhône et l'Alsace. En Corse, un ciel voilé. On ne sera pas à l'abri d'une averse à l'ouest. Partout ailleurs, ce sera changeant, souvent menaçant avec des averses plus nombreuses et orageuses pour l'après-midi. Ce sera moins agité tout de même près des côtes du nord-ouest. On n'aura plus que 15 à 20 degrés, 23 en Méditerranée, mais encore 27 en Corse. Dimanche, toujours frais, une moyenne de 19 degrés au nord, 21 au sud. La bonne nouvelle, c'est que ce sera plus lumineux avec moins d'averses. La Méditerranée retrouvera du soleil, mais une nouvelle perturbation gagnera la Bretagne.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Arrivé, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. L'ouragan Irma rétrogradé en catégorie 4. Il se dirige ce soir vers Cuba. EDF a pu rétablir une électricité d'urgence pour alimenter les hôpitaux de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Également l'aéroport français de Saint-Martin, mais seul l'avion des secours peut s'y poser. Le bilan sur ces deux îles est toujours de 9 morts, 7 disparus, une vingtaine de morts en comptabilisant le reste des Antilles. Samedi soir, ce sera à la Floride d'être frappé. L'envoyé spécial de France Info dans les Keys vit les dernières heures d'attente de la population. Grégory Phillips, là-bas, on s'apprête donc à affronter l'ouragan.
Oui, bien sûr, il fait encore très beau ici sur les Keys à la mi-journée. Les Keys, vous savez, c'est cet archipel d'îles étalé sur environ 30 kilomètres, et il y a donc la mer de tous les côtés de ces îles, et c'est évidemment la partie la plus compliquée à protéger. Alors ici, la plupart des habitants sont partis, mais pas tous. Vous savez que dans tout l'état de Floride, environ 1 300 000 personnes ont reçu des ordres d'évacuation, mais ils ne sont pas contraignants. Donc des habitants des Keys ont choisi de rester ici. On se prépare, on se barricade. Certains ont des habitations en dur qui ressemblent à des bunkers. D'autres mettent des plaques de tôle contre les fenêtres pour protéger des vents et de la montée des eaux. Et on attend ici dans la nuit de samedi à dimanche sans doute des vents à 240 km/h, soit un peu plus faibles que ce qu'ont connu les Antilles françaises. C'est la seule bonne nouvelle, sinon les projections météo des services américains semblent montrer que l'ouragan se dirige droit vers Miami et vers la Floride.
Grégory Phillips, le deuxième ouragan José se renforce dans le sillage d'Irma. Il est désormais lui aussi de catégorie 4. Il n'est plus qu'à 450 km de la Guadeloupe. Enfin, il y a Katia, troisième même phénomène semblable, moins violent tout de même, catégorie 2. Il doit s'abattre sur l'est du Mexique ce soir au niveau de Veracruz. Nous sommes là juste au nord de la zone qui vient d'être secouée par un séisme. C'était la nuit dernière, magnitude 8,1, la plus puissante qu'ait connue le pays depuis 1985. On compte au moins 35 morts, principalement dans les états du Chiapas et de Oaxaca. Il avait l'intensité et la vivacité d'un pêcheur d'étoiles, hommage du couturier Jean-Charles de Castelbajac à Pierre Berger, mécène, homme d'affaires, figure de la gauche et du monde associatif. Pierre Berger est mort ce matin, il sera incinéré mardi dans la plus stricte intimité. L'ancien compagnon d'Yves Saint-Laurent était aussi l'un des porte-drapeaux de la lutte contre le sida et pour les droits des couples homosexuels. La Ligue 1 de football, cinquième journée qui commence par la réception de Bordeaux à Lille. Les Lillois jouent la deuxième période à 10, expulsion de Thiago Maia. Il y a pour l'instant 0-0 à 70 minutes de jeu. Dans un quart d'heure, le coup d'envoi sera donné à Metz. Le stade Saint-Symphorien accueille le PSG. Kylian Mbappé sera titulaire. Et puis l'US Open de tennis, suite et fin des demi-finales. Cette nuit avec les rencontres masculines, Kevin Anderson, Pablo Carreño Busta et Rafael Nadal, Juan Martín del Potro. 20h33 sur France Info, c'est le retour des informés. Deuxième partie, même chef d'orchestre, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de ATNT. Et eux, ils trépignent avant le grand plongeon dans le week-end. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Louis Osalta de Marianne, Sandra Régol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Et non, vous n'êtes pas de La République En Marche comme votre collègue. Enfin bref, je me suis embrouillé tout à l'heure. Les pinceaux, on y reviendra. Le communicant Philippe Moreau Chevrolet, également Virginie Lepetit de Courrier International. Nous parlions juste avant le journal de cette rentrée sociale qui n'en finit plus tant les réformes s'accumulent. Louis Osalta, il va y avoir donc une première manifestation donc le 12 septembre, donc c'est mardi prochain. Il y en aura une autre annoncée par la CGT donc le 21, une autre ensuite le 23 pour la CGT. Même chose que ces réformes, est-ce que finalement la multiplication de ces rassemblements, ça ne va pas essouffler finalement ce mouvement?
Ça en fait c'est l'éternelle histoire de la coalition ou non coalition plutôt du politique et du syndical face au lutte sociale. Et là comme politiquement Jean-Luc Mélenchon il a quand même la main en cette rentrée. C'est-à-dire qu'il a réussi à s'installer comme le premier opposant à Emmanuel Macron, alors qu'il n'était que quatrième au premier tour de l'élection présidentielle. Mais il a réussi à prendre la main politiquement, et je pense que c'est parce que son opposition ne se réduit pas aux ordonnances sur le code du travail, et que du coup il essaye d'englober un mouvement plus large qui s'oppose à ce que Emmanuel Macron fait, mais aussi à ce que Macron est, c'est-à-dire à l'attitude de ce gouvernement qui, on l'a vu avec l'histoire des fainéants encore aujourd'hui, peut donner le sentiment d'un gouvernement méprisant, arrogant, d'un gouvernement un peu de caste. Et ça, dans le discours de Mélenchon, en fait, il arrive à inscrire la lutte sur des ordonnances précises dans une histoire globale de lutte contre ce gouvernement et contre la philosophie politique d'Emmanuel Macron. Pour les syndicats, c'est plus compliqué parce que le gouvernement était quand même plutôt habile sur la méthode cet été.
Et on les a vus diviser.
En négociant avec eux, et en plus, Emmanuel Macron a réussi à les diviser. Même si, finalement, la plupart des centrales, ils sont pas, quand même pas d'accord avec les ordonnances. Même la CFDT, même FO qui avaient espéré des choses, ils ne les ont pas eues. Mais comme ils ont eu tout l'été pour négocier avec le gouvernement, et que le gouvernement a bien dit, mais regardez, on discute, on a passé tout l'été à discuter. Personne ne sait vraiment comment ça s'est passé dans le huis clos des discussions. Mais ils ont discuté. Et donc maintenant, les syndicats sont rougeants comme devant. Ils ont accepté la méthode qui était proposée par Emmanuel Macron. Maintenant, ils se retrouvent un peu pris à leur propre piège.
Ça en rigole. Vous serez donc dans la rue le 12, donc mardi prochain. Qu'est-ce que vous attendez justement de ces mobilisations sociales alors qu'en effet, il y a une division syndicale? Il n'y a qu'un syndicat aujourd'hui qui appelle officiellement, bien sûr, il peut y avoir des dissidents d'autres syndicats à manifester. Qu'est-ce que vous attendez?
Alors déjà, pour une part, je ne suis pas étonnée qu'il y ait pas mal de manifestations parce que l'agenda de rentrée est chargé.
Et puis, sont toujours les mêmes quand même en même temps. C'est la CGT, France Insoumise, CGT, France Insoumise.
Ce sont toujours les mêmes organisateurs et il n'y a pas que par ailleurs. Il y a plein d'autres organisations qui sont co-organisatrices. Mais non, ce n'est pas étonnant parce que souvenez-vous l'an dernier, combien de manifestations il y a eu contre la loi travail. On est reparti sur les mêmes problématiques, donc il est normal qu'on soit tous dans la rue. Par ailleurs, si vraiment Emmanuel Macron voulait créer de l'emploi, c'est certainement pas par la flexibilité, entre guillemets, du travail qui passerait. Parce que vous allez trouver très très peu de gens pour la défendre telle qu'elle. Même les gens qui sont pro-flexibilité vont vous expliquer que ça passe par de la formation, que ça passe par une augmentation des allocations chômage, etc., etc. Donc son outil, il est inefficace. Il est inefficace, il a déjà été testé, et on continue à nous dire que ça va être une solution. On nous prend quand même un peu... pour des dindes.
Virginie Petit, vous-même, ces mobilisations, est-ce qu'elles peuvent avoir un écho? Est-ce qu'on peut finalement les comparer en sachant qu'il n'y aura pas une unité syndicale aux manifestations contre la loi El Khomri?
Parce qu'il n'y a pas d'unité syndicale, non, on pourra pas avoir quelque chose, sans doute pas d'une aussi grande ampleur. Enfin, moi, je suis pas devin. Hein. Faudra voir ce que ça donnera d'ici le 12 septembre. Mais à mon avis, quand même, il a épuisé un peu quand même l'ouragan. Non, mais sérieusement, ça a perdu de sa force. Effectivement, ça s'est effiloché au fil des discussions cet été. Et je pense que les gens sont là aussi de la lutte, en fait. Et malheureusement, enfin, du coup, il n'y a plus vraiment de discussion.
Mais
moi, je pense que ça ne réunira pas autant de monde. Hein.
Philippe Moreau-Chevrolet, pour vous, aujourd'hui, c'est-à-dire que, est-ce que il y a eu aussi cette embrouille autour de Jean-Luc Mélenchon, Philippe Martinez, finalement, tout ça, et Rabiboché, enfin, d'avoir autant de, finalement, de possibilités de protester, ça peut peut-être diluer, non?
Il y a une erreur qui est de regarder les appareils. Toute la question, en fait, c'est ça. Macron a très bien géré les appareils syndicaux qui se sont fait avoir, mais vraiment en beauté. C'est brillant. Politiquement, il a un sens, une stratégie, une tactique qui est la meilleure. Je veux dire, personne n'est au-dessus. Maintenant, il y a une incertitude. C'est que dans les manifestations contre la loi travail, les syndicats ont été dépassés très rapidement par leur base et très rapidement n'ont plus eu aucun contrôle. Moi, c'est la première fois que je voyais des canons à eau chargés des manifestants, place des Invalides. C'était des scènes très étonnantes. Donc il y a une incertitude qui est de savoir si vraiment, comme vous le dites, on a passé le cap et les luttes et les Français sont fatigués, ils ont envie d'autre chose, ou si il peut y avoir une explosion sociale, celle que redoute le gouvernement. C'est pas complètement acquis, je veux dire. C'est pas parce que les élites syndicales ont été maîtrisées que le reste va suivre.
Louis Alter, justement, vous suivez pour Marianne donc la politique française. C'est quoi l'ambiance par rapport à ces manifestations aujourd'hui dans le gouvernement, dans le groupe La République En Marche? On se dit c'est bon, c'est gagné, il n'y aura personne. Ou on se dit au contraire, on regarde ça avec méfiance?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment des certitudes là-dessus. Parce que, effectivement, les appareils sont maîtrisés. Mais je pense que là où Emmanuel Macron est bon dans la stratégie politicienne, mais la stratégie qui fait qu'il parle avec les acteurs autorisés, entre guillemets, je suis pas sûr qu'il sente le peuple, entre guillemets. Ouais.
Non, c'est ça le point d'interrogation.
Et par-dessus le marché, il sort quand même d'une phase électorale où il y a une très forte abstention. Aux élections législatives, il y a quand même plus d'un Français sur deux qui ne se déplace pas. Donc en fait, c'est comme si on était sans nouvelles du peuple. On ne sait pas exactement comment les gens vont le ressentir. Cet été, on a parlé entre nous, les syndicats ont parlé avec le gouvernement, qui a parlé avec les députés, qui a essayé de reconstruire la majorité. Mais à un moment donné, si ça explose, c'est pas de là que ça viendra. Ça viendra pas des syndicats, ça viendra pas du politique. Je pense que ça viendra d'un mouvement populaire. Alors, ce que je sens plutôt, et en discutant avec les politiques de tous bords, ce qui ressort, c'est quand même le sentiment d'une lassitude assez profonde des Français.
C'est ce que vous disiez,
Donc, pour l'instant, ni enthousiasme, ni envie de lutte, effectivement. Mais Emmanuel Macron, il n'a pas été élu dans l'enthousiasme, de toute façon. C'est pas parce qu'il a fait plus de 60% au second tour de la présidentielle qu'il y a eu un enthousiasme, parce que c'est une élection par défaut et qu'il y a eu un taux de participation très faible.
Allez, dans un instant, on va parler d'une revenante et donc d'une députée de La République En Marche qui aime bien les journées du patrimoine. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
L'électricité d'urgence rétablie à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les techniciens d'EDF ont remis le courant pour les hôpitaux des deux îles et l'aéroport de Saint-Barthélemy. Deux avions avec 140 tonnes de matériel, dont une cinquantaine de groupes électrogènes, arriveront après-demain aux Antilles françaises. Il est considéré comme le plus fort séisme au Mexique en un siècle. Le tremblement de terre de magnitude 8,2 a maintenant fait au moins 36 morts. C'est un bilan réactualisé, c'était la nuit dernière. 23 morts dans le seul état d'Oaxaca au sud du pays. Le pays qui s'attend maintenant à affronter l'ouragan Katia de catégorie 2. Cet été, Emmanuel Macron déclarait que la France n'était pas réformable. Le chef de l'État récidive depuis Athènes. Il déclare aujourd'hui le pays ne se réforme pas parce qu'on se cabre, on résiste, on contourne. Nous sommes ainsi faits. Un homme d'affaires, un amoureux des arts, à la tête de la maison Yves Saint-Laurent pendant 40 ans, compagnon du grand couturier, ardent défenseur de la lutte contre le sida. Pierre Berger est mort à 86 ans, il sera incinéré mardi prochain dans la plus stricte intimité. Et puis Mbappé est titulaire pour sa première avec le Paris Saint-Germain, d'ici quelques minutes face à Metz. Mbappé, Neymar, autant dire que le club parisien sort la grosse artillerie et toujours zéro partout entre Lille et Bordeaux. Il reste 10 minutes à jouer, c'est la cinquième journée de Ligue 1.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors c'est vrai que le monde des médias est un univers impitoyable, hein, autant le dire. Une concurrence permanente, une lutte infernale qui nous fait détester la concurrence, même si nous sommes bien sûr une grande famille. Voilà. Eh bien, je tenais à féliciter TF1, qui tout de même a retrouvé Marine Le Pen. Eh ben oui, puisque la présidente du Front National avait totalement disparu des radars et brillé par son absence lors des séances concernant la loi travail à l'Assemblée nationale, la situation sociale également. La première chaîne a mis donc ses meilleurs chiens truffiers sur sa trace. Ils ont fini par la trouver. Alors bravo à eux, rentrée médiatique hier pour Marine Le Pen, puis rentrée publique demain avec un discours à Brachet en Haute-Marne. Pas d'annonce particulière, mais donc une rentrée quand même difficile hein, pour la leader frontiste, qui a tout de même ramené sur son nom, rappelez-vous, près de 11 millions de voix lors du second tour à la présidentielle, mais qui s'interroge sur l'année à venir. Et en plus, elle ne peut même pas compter sur son père. Ah, la famille, Jean-Marie Le Pen.
Il faut avoir le courage de reconnaître ses erreurs. Deux erreurs fondamentales, l'exclusion du président fondateur du mouvement, d'une part, et d'autre part, le changement d'axe politique et sa, comment dirais-je, son européanisation, alors que les vrais problèmes qui se posent à la France sont des problèmes qui sont liés au problème de l'immigration massive.
Voilà, Jean-Marie Le Pen hier sur Europe 1. Donc rappelons juste pour ceux qui ne se rappelaient pas que le président du Nord du Front National, c'était lui, hein, Jean-Marie Le Pen. Alors Philippe Moreau, je voudrais juste un petit point de communication avec vous, parce que hier sur le plateau de TF1, Marine Le Pen est apparue avec des lunettes. Alors il y a quand même une stratégie quand même de com avec les lunettes. On sait toujours que ça crédibilise, on va dire.
Oui, Chirac avait essayé aussi. Hein, c'est des grosses lunettes, comme enfin les lunettes assez larges pour qu'on voit quand même les yeux. On ne sait pas vraiment s'il y a une stratégie chez Marine Le Pen. Elle a explosé en vol au deuxième tour de l'élection présidentielle. Clairement, elle n'était pas au niveau. Elle essaie constamment de changer d'image. Sur son affiche, elle montrait beaucoup de féminité. Avant, elle avait joué la France apaisée. Ensuite, elle est devenue hystérique en plateau. Elle change constamment. C'est pas forcément une stratégie. Ça l'a vieilli. Ça l'a s'agit peut-être un peu, mais j'ai envie de dire, c'est passé déjà. Voilà, c'est trop tard.
Ouais, c'est trop tard. Pourquoi?
C'est trop tard pour changer d'image. Trop tard. Elle a déçu ses propres partisans au deuxième tour de l'élection présidentielle. Il faut quand même le faire. Décevoir ses partisans face à Emmanuel Macron, c'était quand même un échec colossal pour elle. Je pense que c'est passé maintenant et qu'on va voir d'autres personnes émerger probablement.
Alors Sandra Hegol, c'est quand même, c'est vrai que c'est assez étonnant. Elle a totalement disparu pendant l'été. Marine Le Pen, elle parlait beaucoup auparavant de cette loi travail. Alors les députés sont très peu intervenus, les députés frontistes. Et pourtant, c'est vrai, il y a quand même 11 millions de voix qui se sont portées. C'est un score historique pour le Front National. Il n'avait jamais fait autant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Marine Le Pen n'est plus l'opposante numéro un pour vous. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a pris sa place, ou au contraire, elle peut revenir, parce que elle a expliqué ça hier aux 20h de TF1 en disant que Jean-Luc Mélenchon, ce ne sont que des bruits d'estrade, ce n'est pas la France.
Alors, elle n'a jamais été une opposante majeure dans la vie politique française. Elle s'est posée comme opposante, mais il ne faut pas confondre le discours et la réalité. Par ailleurs, les députés du Front National ont toujours brillé par leur absence à l'Assemblée. Ils n'étaient souvent pas là. Enfin, voilà, elle est dans la tradition de sa famille politique. Après, je sais pas, peut-être que ses partisans aussi, au bout de, ça fait combien, 30 ans que la même famille se partage le même gâteau. Alors, on a le beau-frère, la belle-sœur. Il manque plus que le poisson rouge, en gros, qui soit un poste important du FN. Donc oui, peut-être qu'il y a une lassitude là-dessus. Et c'est aussi ce qu'on paye quand on privatise comme ça le pouvoir et quand on personnalise à ce point-là le pouvoir. Par ailleurs, si elle a fait des voix, c'est aussi sur un rejet de la politique qui a été menée précédemment. Mais c'est aussi Macron qui bénéficie de ça. C'est aussi Jean-Luc Mélenchon qui bénéficie de ça. Le seul qui perd dans le truc, c'est quand même Benoît Hamon.
Oui, en effet, oui, il a perdu un petit peu. Louis, aux acteurs, il y a eu un sondage ce soir donc que nous avons fait à France Info avec l'Institut de sondage Odoxa, qui est assez intéressant, puisque plus de 50% des Français interrogés pensent qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est un handicap pour son parti. Est-ce que c'est aujourd'hui le tabou, justement, la question qu'on n'ose pas poser au sein du Front National? Un Front National sans Marine Le Pen, est-ce que c'est possible?
Je pense que c'est précisément pour ça que la crise au Front National est extrêmement grave. Elle est très grave pour eux. Parce qu'il y aurait une divergence de ligne. Il y avait une divergence de ligne avant l'élection présidentielle.
C'est ça,
et pourtant, elle se portait très bien dans les sondages. Il y avait la ligne Philippot, il y avait la ligne Marion Maréchal Le Pen, et puis il y avait Marine Le Pen qui essayait d'arbitrer tout ça un peu maladroitement entre les deux. Ça ne l'a pas empêché d'arriver au second tour de l'élection présidentielle, de faire 11 millions de voix au second tour. Sauf que là, le problème du Front National, c'est sa chef. Et dans un parti où il y a vraiment le culte du chef depuis sa fondation, il y a toujours eu le leadership, c'était le point fondamental. C'est-à-dire que ce qui mettait d'accord les philippotistes, les marionnistes, les différents courants du parti, quand vous allez dans les meetings de Marine Le Pen, quand vous allez voir comment ça se passe, ce qui les met d'accord, c'était Marine, c'était la personnalité de Marine Le Pen. Or là, elle a déçu énormément de monde, y compris parmi ses partisans, à cause du débat, donc pendant deux heures et demie de débat raté, elle a ruiné tout ce qu'elle avait construit en crédit politique. Et dans un parti comme le Front National, autant centré sur la figure du chef, quand il y a un problème de chef, eh ben, il y a un problème fondamental. Et il n'y a personne pour remplacer Marine Le Pen. Et là, la chef, en plus, est en train de se prendre le chou avec Florian Philippot depuis
bien
cet
sûr,
été.
Ouais, c'est ça.
Donc avec son principal appui, celui qui lui fournissait les fiches, son numéro 2. Marion Maréchal Le Pen est partie, à mon sens, politiquement, elle a bien fait, parce qu'elle a quitté un parti qui est en crise et qui sera en crise, à mon avis, pour pas mal de temps. Donc le problème du Front National, il est majeur parce qu'il est lié à la personnalité de son leader.
C'est ça, Philippe Manchevrolet aussi. C'est elle, à un moment, cette question va se poser. Quand on parle avec des gens du Front National, il n'y a aucune, voilà, y a aucune interrogation là-dessus. C'est Marine Le Pen, elle est forte. Et non, on voit pourtant.
C'est Marine le problème, parce que c'est elle qui a planté le deuxième tour de l'élection présidentielle. Il y avait une forte attente quand même chez les électeurs frontistes qu'elle y arrive, qu'elle fasse un débat digne et qu'elle montre que le Front National était capable de gouverner. Elle a vraiment déçu tout le monde et elle a fait une très mauvaise campagne dans l'ensemble. Marion Maréchal Le Pen est en réserve du Front National, mais elle est beaucoup plus à même de revenir parce que c'était la Benjamine de l'Assemblée, parce qu'elle a une image qui est à peu près intacte après cette épreuve-là. Il y a le couple Ménard aussi. Et Ménard, il est très particulier. Il a conquis Béziers, il en a fait un fief, et il commence à dire que le Front National, ça commence à bien faire. Mmh. Donc peut-être que ça peut être un Bruno Maigret qui réussit, un Brutus qui réussit à tuer le César Fontiste.
Virginie Petit, est-ce que pour autant... il faut enterrer Marine Le Pen. Elle a fait quand même deuxième donc à la présidentielle. Tout le monde parle de ce débat en effet raté, mais elle est là. Enfin, je veux dire, ses idées, 11 millions, c'est un score historique pour le Front National. Certes, ils ont que 7 députés, mais tout de même, 11 millions de voix.
Ces idées, ce sont les idées du Front National. Donc, ouais. Ces idées, elles persisteront.
Vous pensez que ça peut rester malgré s'il n'y a plus cette personnalité, ce nom Le Pen ?
Alors, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on a dit. Là, vous me parliez juste de Marine Le Pen. Ouais, ouais. Comme on l'a dit, c'est quand même très familial. Il y a Marion Maréchal Le Pen qui est en embuscade derrière. Et les idées fondatrices du Front National, c'est-à-dire la xénophobie, le racisme, la lutte contre l'immigration massive, comme disait le patriarche tout à l'heure. Donc, tout ça perdurera, qu'elle soit là ou pas. C'est leur fond de commerce. Donc, bien sûr que le Front National peut durer sans Marine Le Pen. Il faut, et effectivement, là où c'est fondamental, c'est qu'il faut qu'ils trouvent un autre leader, parce qu'ils ne savent pas, pour le moment, fonctionner sans ça.
Oui, sans rigole.
Après, il y a peut-être un autre facteur aussi, c'est qu'on voit les Républicains se radicaliser beaucoup et piquer énormément aux idées du Front National. Je vois notamment la région Rhône-Alpes, où Wauquiez se distingue carrément et reçoit même tous les éloges du Front National. Donc il y a peut-être un double jeu aussi politique, qui est à la fois celui de la déception, mais je ne crois pas qu'un parti aussi amoureux de son icône puisse se détacher aussi vite, mais il y a quand même un autre facteur chez les électeurs, qui est qu'ils ont trouvé une autre maison peut-être plus légitime.
C'est une chance historique pour la droite de capter le Front National. C'est le moment de le faire. C'est pour ça que Wauquiez n'est pas bête dans sa démarche.
Mais c'est effrayant. C'est effrayant sur le fond et politiquement.
Les électeurs qui avaient cru en Sarkozy, ils sont partis au Front National. C'est pas sûr que ce soit un aller avec retour, que ce soit un ticket aller-retour. Wauquiez essaie de changer Sarkozy. On va voir ce que ça donne.
Dans un instant, on va encore parler un tout petit peu de politique et puis on partira de nouveau à Miami rejoindre le correspondant de France Info sur place, Grégory Fives, pour nous parler justement de l'avancée de l'ouragan Irma. Vous savez qu'il s'approche de la Floride. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
À Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les deux hôpitaux et l'aéroport de Saint-Barthélemy vont recommencer à fonctionner. EDF annonce avoir rétabli l'électricité sur ses services prioritaires. Irma a déjà fait une vingtaine de morts dans les Caraïbes. Aux États-Unis, des centaines de milliers de personnes se jettent sur les routes. Ils fuient vers le nord de la Floride et tentent d'échapper à ce puissant ouragan Irma. Un an de prison avec sursis à l'encontre de l'ancien préfet d'Île-de-France, condamné pour fraude fiscale. Ce soir par le tribunal correctionnel de Paris. Il devra aussi payer une amende de 50 000 euros. Sa dette vis-à-vis du fisc a dépassé les 190 000 euros. 36 morts au Mexique après le tremblement de terre la nuit dernière. Le bilan réactualisé ce soir fourni par les autorités après ce séisme de 8,2 sur l'échelle ouverte de Richter. PSA va déposer plainte pour violation du secret de l'instruction et dément les révélations du Monde. Peugeot Citroën aurait vendu près de 2 millions de moteurs truqués dans le but de passer avec succès les tests anti-pollution entre 2009 et 2015. Le quotidien publie un rapport de la répression des fraudes. Rafael Nadal face à Juan Martín del Potro, deux joueurs expérimentés ce soir en demi-finale de l'US Open de tennis. Avant cela, des 22h, le duel entre des plus jeunes, Pablo Carreño Busta et Kevin Anderson, deux joueurs qui sont présents pour la première fois dans le dernier carré d'un grand tournoi du Grand Chelem.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, encore juste une petite question d'ordre politique française, puisque il y a une chose assez sûre, c'est à propos de politique, ça donne envie de commercialiser la présence des invités autour de la table des informés de France Info. L'entreprise Access Tour propose pour 119€ des visites de l'Assemblée au départ du Mans. Alors voilà, bon, la prestation comprend le transport en véhicule, les services d'un chauffeur accompagnateur, le déjeuner, boisson comprise, et la visite du Palais Bourbon, sympathique. Alors cette visite se fera en présence de notre député, et cette députée, c'est Pascal Fontenelle-Personne, députée de La République En Marche de la Sarthe et co-directrice de la société Access Tour. Décidément, la Sarthe, ça pose des petits problèmes. Alors, c'est vous, Marianne, qui sortez cette affaire depuis. Ça fait polémique puisque la députée dit qu'elle a cédé ses parcs. C'est jamais elle qui aurait pu imaginer faire la visite. On en est où ce soir?
Eh bien, elle a fait un communiqué pour expliquer qu'elle n'avait rien à se reprocher, mais qu'en même temps, comme dirait Emmanuel Macron, elle allait quand même mettre fin à cette activité, enfin qu'elle allait céder ses parts dans cette activité, tout en se défendant sur le fond, en expliquant que ça payait en réalité le trajet, etc. Bon, on assiste à une défense, mais le trajet proposé était quand même accablant. On avait aussi sorti à Marianne l'affaire de le député El Garab qui avait frappé, qui est quand même autrement plus grave, a frappé à coup de casque un adversaire politique qui d'ailleurs aujourd'hui a dû être réhospitalisé. J'en tirerai pas des conclusions évidemment plus générales que ça, on a quand même affaire à deux députés. Une seule chose, ça montre que la moralisation de la vie politique, le fait d'avoir des élus qui soient impeccables, bon, de toute façon, j'y ai jamais cru par essence parce que je pense pas qu'en politique on puisse avoir des 12 agneaux dans la classe politique. Ouais. Et même pour se faire élire député, il faut tuer des gens au moins politiquement. Pour être président de la République, il faut tuer encore plus de gens. Oui. Mais on constate quand même que le macronisme, pour l'instant, au niveau moralisation, il ne montre l'exemple ni par le haut ni par le bas. Il y a des ministres qui ont dû quitter le gouvernement à cause des affaires, et puis maintenant il y a des députés qui sont pris la main dans le pot de confiture.
Sandra Rigol, ça sert à rien de tirer bien sûr des conclusions sur tous les députés parce que ce n'est pas le cas. Mais là, en effet, le cas de ces deux députés, c'est un peu quand même embarrassant pour La République En Marche.
Il y a deux, il y avait Richard Ferrand il n'y a pas longtemps. Enfin, les affaires s'accumulent. Après, bon, là, on plaisantait un peu sur cette publicité faite sur le nom de la députée. Bon, en fait, c'est quelque chose d'assez grave en réalité. C'est même légalement répréhensible parce que la loi interdit justement à un représentant de l'État, à un député, à une députée.
Alors, elle ne fait pas payer de la visite de l'Assemblée. C'est le tour, en fait.
Non, non. Ce qui est interdit, c'est la publicité. C'est-à-dire de se servir de sa fonction pour faire la publicité d'une entreprise, pour faire une publicité qui rapporte de l'argent. Or là, l'action rapportait de l'argent, visiblement, puisque ça servait, je ne sais pas, de promotion, d'attrait, etc., etc. Là, on a quand même une personne qui utilise sa fonction publique, qui utilise l'argent public, pour enrichir son capital dans son entreprise, le tout sous un président qui nous a bassiné pendant 6 mois de campagne sur la moralisation de la vie politique, qui a sorti une loi de moralisation de la vie politique, et on attend toujours les actes, et c'est un peu comme sur tout le reste. On a beaucoup de mots, on est content de les entendre, mais on aimerait bien voir ce que ça fait en vrai.
Rapidement, au Chevrolet, c'est vrai que cette loi est presque passée à la trappe, la moralisation de la vie politique, cet été, on en parlait
plus. C'est difficile quand vous avez 4 ministres qui démissionnent en un mois, d'aller défendre la moralisation après, dont l'auteur de la loi quand même.
François Bayrou
qui a fait tout un chantage pour que cette loi passe. Ça prouve une chose, c'est que quand on prêche la morale en politique, c'est extrêmement risqué. Fillon a été crucifié pour ça, en quelque sorte, et sans mauvais jeu de mots. Maintenant, c'est un vrai problème parce qu'il y a des jeunes députés. Certains ont pris leurs précautions en démissionnant tout leur mandat social en renonçant à leur entreprise. D'autres ne l'ont pas fait. Et ceux qui ne l'ont pas fait se mettent en gros risque.
Et bien sûr, exactement. Allez, nous avons commencé, bien sûr, l'émission en parlant de cet ouragan Irma qui continue sa course. Bien sûr, on en parlera toute la soirée et encore tout le week-end sur France Info, car après avoir frappé les Antilles françaises, eh bien cet ouragan aujourd'hui se dirige vers les États-Unis, vers la Floride. Grégory Phillips, vous êtes notre correspondant aux États-Unis pour France Info. On a parlé en début d'émission de cette ville qui se vide totalement. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même une question qu'on se pose par rapport à la personnalité de Donald Trump, est-ce que l'ouragan Harvey, la Floride, est-ce que ça peut faire évoluer des mentalités par rapport à ce qu'il pense sur l'environnement, ou aujourd'hui on en est vraiment qu'encore sur les évacuations, sur quoi faire pour se protéger face à l'ouragan?
Non, pour l'instant, pour tout vous dire, il n'y a pas de débat sur le réchauffement climatique ou les causes de cet ouragan. Là, on est dans le dur de la situation, et ce dont tout le monde parle ici, les autorités, la Maison Blanche, le gouverneur de Floride et les habitants, c'est simplement ce qui va se passer dans les prochaines heures. Vous savez que l'ouragan est attendu dans la nuit de samedi à dimanche. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas de débat politique. La seule chose politique à noter, c'est que Trump montre qu'il est présent sur le front de cette future catastrophe naturelle. Il a tweeté à plusieurs reprises que ses équipes étaient sur zone en Floride et qu'il suivait la situation minute par minute. Pourquoi Trump fait-il ça? Eh bien parce qu'il sait très bien que, par exemple, la gestion calamiteuse de Katrina par George W. Bush en 2005 avait considérablement nui à la réputation politique de l'homme d'État et que Trump, évidemment, veut éviter toute erreur de gestion de cette catastrophe.
Juste une petite question avant le week-end, parce que vous allez bien sûr nous tenir informés tout le week-end sur l'évolution. Vous êtes où actuellement, Grégory, et autour de vous, qu'est-ce qu'il y a?
Alors là, je suis sur l'autoroute qui remonte vers Miami et qui ensuite se poursuit vers le nord. La petite difficulté qu'on a, c'est de trouver un abri sûr à Miami pour demain. Pour tout vous dire, l'hôtel où je me trouvais a reçu un ordre d'évacuer et donc on a été évacué à 11h ce matin. L'idée, c'est de trouver un autre hôtel, si possible, dans Miami, mais si possible aussi à l'abri du vent. Vous savez, les habitants de Floride ont l'habitude des ouragans. Mathieu a frappé il y a un an et il y a une dame tout à l'heure qui disait « c'est votre premier ouragan ?» Eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir et vraiment, vous allez avoir très peur. Donc l'idée, c'est quand même de se mettre à l'abri, de suivre cette actualité, mais de ne pas prendre de risques, évidemment.
Merci beaucoup, Grégory Philips. On continue, bien sûr, à suivre avec vous depuis Miami, depuis la Floride, l'évolution. En tout cas, Dirma, merci également à Sandra Rigold d'être passée ce soir aux Informés de France Info. Merci à Philippe Moreau, Chevrolet. Virginie Petit, la une de Courrier International cette semaine.
L'anatomie de la terreur, une enquête scientifique sur les motivations des djihadistes.
Et Louis Alter, la une de Marianne cette semaine.
Comment les patrons dirigent la France, comment le gouvernement a pris des options qui satisfont le patronat et un débat entre le négociateur du MEDEF et le patron de la CGT, Philippe Martin.